Le 3 avril, nous prenons le train pour Fukushima. De toutes les villes où nous nous rendons au cours de ce périple, c'est la seule que je ne connais pas. Après 2 heures de trajet, nous arrivons dans une petite ville ordinaire entourée d'un massif montagneux. On chercherait en vain la trace d'un dégât. Nous roulons longuement dans une camionnette de location pour rejoindre la côte. Nous traversons une zone vide. Le conducteur nous signale sobrement qu'avant le 11 mars 2011, ce lieu était habité. On ne peut qu'admirer le déblayage. Pas l'ombre d'un débris. Nous sommes venus apprécier l'art d'effacer jusqu'au souvenir d'une catastrophe quand nous découvrons ce que fut le port de la localité. Les installations portuaires sont aussi anéanties que si elles avaient été bombardées. Il faut un effort constant de la mémoire pour se rappeler qu'une telle destruction est l'œuvre de la nature. Dans un saccage aussi laid, on croirait reconnaître la patte de l'homme. Nous continuons notre route et nous débouchons dans la zone qui n'a pas encore été déblayée. Apocalypse signifie révélation. Il nous est révélé le désastre. Des moignons de maisons se dressent dans le néant. Comme les cadavres de Pompéi, la mort les a figés. Des chambres à moitié démolies nous montrent leurs entrailles. Devant des vestiges de portes, des alignements de chaussures racontent que ces gens étaient chez eux quand le tsunami s'est produit. Le plus triste, ce sont les monceaux d'objets, les restes du festin, ce que la mort n'a pas eu l'appétit de finir. Des jouets d'enfants, des pinces à linge, des pantoufles. Sur les murs de salles de séjour éviscérées, des tableaux de paysages idylliques nous disent que les habitants n'étaient pas riches, mais qu'ils aimaient la douceur douillette de leur intérieur. Un salon de coiffure décapité suggère que l'on veillait à avoir bonne apparence. Une année et 23 jours se sont écoulés depuis le drame. Il fait froid, gris, il souffle une bise de mort. C'est la solidarité du climat. Quelques demeures ont résisté. À les regarder, on comprend que la vague est tout simplement passée à côté, sans explication. J'essaie d'imaginer ce que ces miraculés ont pu ressentir et je n'y arrive pas. La réalisatrice et moi sommes prises de crampes au ventre. Il n'est pas question de les soulager ici. Nous roulons jusqu'à une petite usine, un genre de coopérative proprette où nous demandons où sont les toilettes. Quand nous en sortons, nous regardons ces gens qui travaillent comme si de rien n'était. Il n'y a aucun doute, cette entreprise était déjà là le 11 mars 2011. Ses salariés y travaillaient. Tous ont eu un rapport direct avec la catastrophe. Chacun y a perdu au moins un membre de sa famille. Or, leurs visages sont amènes. C'est à la fois admirable et sinistre. Un peu plus loin, nous tombons sur une équipe d'ouvriers qui s'occupe du déblayage d'une zone encore sans dessus-dessous. Chacun manœuvre une grue qui semble le prolongement de son corps et même de ses mains. Avec une précision et une patience sans exemple, chaque grutier trie les monceaux de débris et les entrepose soit sur le tas des textiles, soit sur celui du bois, soit sur celui du métal. Cela prend un temps insensé. Ce qui n'appartient à aucune catégorie est assimilé à la terre et laissé sur place. Une étonnante colonie de hérons plane au-dessus de ce triage aristotélicien. Pour moi, apercevoir un héron a toujours été un événement. Je ne m'explique pas la présence de cette cinquantaine d'oiseaux rares à proximité des décombres. Ils ne viennent piocher dans aucun des amoncellements. On jurerait qu'ils sont là par curiosité ou pour surveiller les grues. Le conducteur de la camionnette nous signale que si nous voulons rentrer à Tokyo ce soir, il est temps de prendre la direction de la gare. Transi de froid et d'épouvante, nous lui obéissons et nous abritons dans le véhicule. Nous longeons la fameuse centrale nucléaire, en bord de mer, sans prononcer une parole. Aucun d'entre nous ne porte ces ridicules petits masques censés protéger des radiations. Nous ne sommes là que pour quelques heures. Et parmi ceux qui vivent ici, personne n'en arbore. D'ailleurs, qui croit qu'un bout de papier sur le nez et la bouche puisse quoi que ce soit contre une telle menace? Nous quittons ce paysage presque beau à force d'être horrible et arrivons à l'heure pour le train de Tokyo. Dans le wagon, nous voudrions être assis ensemble pour soulager nos cœurs, mais les billets achetés à la hâte n'ont pas les numéros qui l'autorisent. Il suffirait d'échanger une place avec la personne qui nous a précédés. Chaque fois que Yumeto le lui demande, elle répond calmement que c'est impossible. « Il faut respecter la numérotation », répète-t-elle, imperturbable. Nous essayons d'en rire. Yumeto me prête son téléphone portable. Je m'isole dans les toilettes du train pour appeler Rinri. « Amélie, où es-tu ? » me demande-t-il d'une voix joyeuse. Je reviens de Fukushima. Je suis dans le Shinkansen. « Fukushima ? Ne penses-tu pas que ces pauvres gens ont assez souffert ? Fallait-il vraiment que tu y ailles ? » dit-il de son ton pince sans rire. « Tu sais bien que je ne connais pas la pitié. Quel temps avez-vous ? Médiocre. Estimez-vous heureux. À Tokyo, depuis 2 heures, nous sommes dans un typhon grave. Tu n'as pas oublié que nous nous voyons demain après-midi ? J'ai tout oublié, sauf cela. » Je lui donne l'adresse de l'hôtel. « Prends garde au typhon. J'ai hâte de te revoir, » dit-il avant de raccrocher. Je pensais avoir l'habitude des typhons, mais celui qui nous attend à Tokyo m'impressionne. Et encore, nous avons raté son point culminant. Dans les rues, de rarissimes piétons s'efforcent d'avancer. Le plus impressionnant, ce sont les cimetières de parapluies. Des pépins de plastique transparent, arrachés par les bourrasques, s'agglomèrent au croisement et forment des installations spontanées.